Bonsoir, l'actualité des Alpes du Sud de ce mardi 9 juillet, les titres. Un motard a perdu la vie à Hanotte en fin de matinée. Pompiers et gendarmes se sont rendus sur place. Une enquête est ouverte. Les urgences de Sisteron fermeront la nuit dès le 15 juillet. Une fermeture que la direction affirme temporaire, même si aucune date n'est pour le moment fixée pour un retour à la normale. La CGT pointe un manque d'anticipation. Le syndicat Sud-CT dénonce l'absence d'écoute et de dialogue au sein du département des Hautes-Alpes. Il reproche plusieurs mesures prochainement adoptées. Le rugby club dinois vient de signer Edgy Campbell, le joueur de 21 ans, nous vient tout droit du Pacifique. Un motard d'une cinquantaine d'années a perdu la vie ce mardi à Hanotte. L'accident est survenu vers 10h30 sur la RN 202. Au lieu dit les Scaffarelles, l'homme de nationalité allemande faisait partie d'un groupe de 6 motards. Il aurait perdu le contrôle de sa moto. 12 sapeurs-pompiers des communes d'Hanotte, d'Entrevaux, de Saint-André-les-Alpes et de Castellane se sont rapidement rendus sur place. La gendarmerie a aussi été mobilisée. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet accident. Deux personnes relogées après l'incendie de la toiture de leur habitation à Gap. L'alerte a été donnée ce mardi en fin de matinée. 50 mètres carrés de toiture avec des panneaux solaires sont partis en fumée. 16 pompiers ont été mobilisés sur ce sinistre. Notez que c'est la ville de Gap qui va reloger les deux habitants. Deux incendies ont eu lieu la nuit dernière dans des bâtiments agricoles dans les Alpes du Sud. Le premier s'est déclaré vers 19h20 hier soir au hameau de Châteauvieux à Vennes. Un hangar de 200 mètres carrés comprenant une centaine de tonnes de foin ainsi que du matériel agricole s'est embrasé. Une trentaine de pompiers est intervenue sur place, il n'y a pas eu de blessés. Puis à 2h40 à Clumont cette fois, ce sont 32 pompiers des Alpes d'Haute-Provence qui ont été mobilisés pour l'incendie d'un bâtiment agricole de 500 mètres carrés avec 3000 mètres cubes de fourrage, une voiture et une caravane. L'intervention s'est poursuivie ce matin. Les pompiers qui sont fin prêts pour la saison estivale, la campagne de prévention et de lutte contre les feux de forêt sur les Hautes-Alpes a été lancée hier dans le Buëch. Des gendarmes aux officiers de l'Office national de la forêt en passant par les maires et bien évidemment les pompiers. Toute la chaîne opérationnelle était réunie. Écoutez Cécile Bigot de Kayser, préfète des Hautes-Alpes.
De nombreux services sont impliqués. La lutte contre les feux de forêt, c'est la prévention et la réponse opérationnelle. La prévention, c'est trois choses. D'abord, c'est la surveillance météo. Donc Météo France, deux fois par jour, transmet au service départemental d'incendie et de secours, au SDIS, l'état de la météo, l'état du risque, les vents, la chaleur, la sécheresse. La deuxième chose dans la surveillance, ce sont des patrouilles qui sont effectuées régulièrement dans les zones à risque, par les pompiers, mais également avec l'appui des agents de l'ONF, avec les agents forestiers de la direction départementale du territoire, et aussi les patrouilles de la gendarmerie qui vont aller vérifier que les uns et les autres se comportent correctement. Parce que le deuxième volet de la prévention, ce sont les comportements de tout un chacun. Vous savez que les particuliers n'ont pas le droit de brûler les déchets verts. Les randonneurs, les promeneurs ne doivent pas faire des feux n'importe où. Il y a dans le département 350 places à feu aménagées et sécurisées. Il n'y a que là que l'on peut faire son barbecue, par exemple. Et puis les agriculteurs aussi, lorsqu'ils font de l'éco-buage, doivent être attentifs à le faire le matin, quand il n'y a pas de vent et évidemment jamais en forêt.
En intervention feu de forêt, le mot d'ordre est la sécurité du personnel engagé. Un système d'autoprotection des engins avec 500 litres d'eau dédiée à la protection permet d'assurer la survie des sapeurs-pompiers si l'engin est coincé entre les flammes. Le colonel Patrick Moreau, directeur du SDIS.
Le feu est vivant, donc le feu a une vitesse de propagation. La vitesse de propagation d'un feu peut aller de 500 à 1200 mètres à l'heure. Voilà, donc on se dit qu'en quelques minutes, même en 5 minutes, le feu parcourt plusieurs dizaines de mètres. C'est le temps donc qu'il mettra pour passer par-dessus le camion. Ces 5 minutes donc d'eau permettent que le feu passe par-dessus et puis continue donc son chemin et que le camion et les personnels qui sont à l'intérieur soient épargnés. Il s'agit bien entendu de protéger la forêt, il s'agit bien entendu, et là on n'aura pas d'hésitation, de protéger la vie humaine en forêt, mais dès lors qu'il n'y a que de la forêt à protéger. Ce qui compte surtout, c'est que les sapeurs-pompiers puissent intervenir, mais puissent intervenir dans des conditions de sécurité les plus importantes. Et j'ai rappelé que dans le cadre de ces opérations de lutte, le camion, et en particulier dans le camion, la cabine du camion, est vraiment l'endroit qu'il faut toujours avoir dans son champ de vision. Et en cas de pépin, en cas de risque, en cas de ressenti de danger, il faut absolument regagner la cabine, absolument mettre en marche les organes de sécurité, parce que la cabine, c'est la survie pour le sapeur-pompier.
Un dossier signé Olivier Milleville. Notez que durant la saison estivale, les secours interviennent en moyenne 50 fois par jour, à 80% pour des secours à personne. Une alpiniste évacuée par l'hélicoptère du PGHM de Briançon ce mardi matin. La femme de 31 ans a été blessée à la tête par une chute de pierre au niveau du refuge des Écrins. Appelez-vous, elle a été transportée sur le centre hospitalier de Briançon. Et puis un automobiliste interpellé à 162 km/h au lieu de 80 sur la RD 1075 à Saint-Julien-en-Beauchesne hier. Ce Savoyard de 31 ans s'est vu retirer son permis par la brigade motorisée de Gap. Son véhicule a été immobilisé. Je vous en parlais dans les titres. Dès ce lundi 15 juillet, les urgences de l'hôpital de Sisteron fermeront la nuit. Une réorganisation que la direction affirme temporaire. C'est la première fois que les urgences de Sisteron connaissent une telle situation. Le service d'accueil des urgences de l'hôpital sera donc ouvert de 8h30 à 20h30, mais le SMUR restera, lui, ouvert 24h sur 24. En cause, selon la direction, des difficultés de recrutement et un absentéisme médical inopiné. Yann Lebras, directeur du FICAS.
Nos médecins urgentistes ont fonctionné 24h sur 24, un service d'accueil d'urgence et également un service mobile d'urgence et de réanimation, un SMUR, lui aussi 24h sur 24. Et là, du fait de ces difficultés, et malgré leur mobilisation très importante, la mobilisation aussi de la direction pour recruter des médecins, nous ne sommes pas en situation d'assurer correctement le fonctionnement des deux aspects de ce service d'accueil d'urgence. Nous maintiendrons ouverts des lits d'hospitalisation de courte durée qui sont au sein des urgences pour permettre la continuité de prise en charge hospitalière d'urgence au sein de ce service. À compter de 20h30, les patients qui le souhaiteraient peuvent appeler le 15 afin d'entrer en contact avec un médecin régulateur qui pourra leur prodiguer des conseils médicaux, les orienter. Et puis également, l'Agence régionale de santé est en train de mobiliser les médecins généralistes de Sisteron pour cette période estivale et de voir avec eux pour qu'ils puissent ouvrir des plages de permanence des soins de 20h à minuit.
Une réorganisation qui n'a pas d'impact sur les effectifs du personnel paramédical, indique la direction. Concrètement, les urgences de Sisteron sont confrontées à un déficit de 3,8 équivalents temps plein de médecins sur une équipe de 11 postes. Pour y faire face, des annonces de recrutement sont diffusées au niveau national. Des cabinets de recrutement ont aussi été missionnés. Yann Lebras.
La situation est délicate au niveau national. Pour autant, nous ne désespérons pas et nous ferons tout notre possible pour retrouver l'organisation habituelle du service d'accueil des urgences. Tout a été mis en œuvre par les médecins urgentistes avant tout, qui sont allés au-delà de leurs obligations de service. Ils ont rogné leur congé, ils ont fait des heures supplémentaires depuis plusieurs mois pour vraiment essayer d'assurer le maximum. Et puis également, du côté de la direction, nous avons missionné tous les leviers, les agences de recrutement possibles pour mettre en œuvre des recrutements. Et là, on est face à une situation qu'on espère ponctuelle, mais pour laquelle il faut s'adapter de manière à préserver le service mobile d'urgence et de réanimation. C'est l'urgence vitale, hein. Derrière ça, c'est vraiment la priorité. Préserver également des conditions de fonctionnement qui soient soutenables pour les praticiens qui sont dans le service et que du coup on rende les conditions de recrutement suffisamment attractives pour de nouveaux candidats. Le problème n'est absolument pas un problème économique, c'est un problème de démographie médicale et de recrutement de médecins.
Alors si la direction affirme que cette réorganisation des urgences est temporaire, aucune date n'est pour le moment fixée pour un retour à la normale. Pour Cédric Vollet de la CGT Santé 04, ces difficultés que connaissent les services des urgences étaient prévisibles. Il pointe un manque d'anticipation et s'inquiète des conséquences pour la population.
Pour nous, donc, en tout cas pour la CGT, donc, c'est aujourd'hui ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une évaluation prévisionnelle des besoins et qu'il y ait une préaffectation des médecins qui sortent de formation au fil de l'eau, donc pour qu'on ne soit pas dans ce genre de situation. Il faut voir donc avec les facs de médecine, avec l'ARS, comment on préaffecte ces postes avec des mécanismes incitatifs pour les jeunes médecins. On ne peut plus laisser, par exemple, les médecins s'installer là où ils veulent, quand ils veulent, tant à l'hôpital qu'en ville, pour qu'on ne se retrouve pas dans des situations donc de déserts médicaux ou de rupture de continuité de services publics, comme c'est le cas aujourd'hui. D'autre part, nous, ce qu'on voit, c'est que les médecins s'en vont de plus en plus. On voit beaucoup de démissions, car les conditions de travail sont déplorables à l'hôpital. Ensuite, ce qu'on voit également, c'est que les médecins ne font pas entièrement que leur job. C'est-à-dire, il manque des personnels à l'hôpital, de manière générale, donc aides-soignants, infirmières, etc. Et donc, on voit des médecins qui se concentrent pas uniquement sur leur stage, et ce qui dégrade aussi considérablement les conditions de travail. Pour la CGT, donc, une des solutions qu'on préconise, c'est un plan d'urgence pour les hôpitaux, avec le déblocage de 4 milliards d'euros, donc ce qui correspondrait à peu près à 100 000 postes.
Et ce mardi, c'est le maire de Sisteron qui a réagi à travers un communiqué de presse. C'est impensable et impossible que la ville de Sisteron, qui possède avec Sanofi un établissement classé Céveso 2, ne dispose pas d'un service des urgences fonctionnant 24 heures sur 24, indique Daniel Spagnou. Le maire dit soutenir le combat du personnel de l'hôpital de Sisteron. Il ajoute « Je pense toutefois que les études de médecine étant financé par les impôts, donc par tous les Français, il serait normal et cela devrait être inscrit dans la loi que les jeunes médecins soient affectés dans les premières années de leur exercice dans les départements désertifiés médicalement et notamment les départements ruraux et de montagne. » Des souffrances au travail, c'est ce que dénoncent les syndicats au sein du département des Hautes-Alpes, alors que la prochaine plénière du conseil départemental des Hautes-Alpes aura lieu vendredi. Le syndicat Sud se dit vigilant sur les questions qui touchent le personnel en interne, Cyril Michard.
Les revendications sont nombreuses, la coupe est pleine pour le syndicat Sud-CT. La situation se dégrade au sein du conseil départemental des Hautes-Alpes, lance Agnès Fombertas, car le syndicat dénonce des souffrances au travail en interne de l'hôtel du département et un mépris de l'administration.
Aujourd'hui, on constate que les postes vacants pour maladie ou pour départ ne sont pas remplacés pendant plusieurs mois. Les contrats CDD sont toujours maintenus dans leur précarité. On voit des non-renouvellements de CDD avec en plus du mépris vis-à-vis des agents qui ont donné toute compétence pendant 5 ans, 8 ans, et qu'aujourd'hui on remercie sans aucune autre possibilité de rester dans le département.
Des contrats laissés vacants, le pôle social en pâtirait, selon le syndicat Sud-CT, comme dans le Briançonnais, où aujourd'hui des postes de travailleurs sociaux ne seraient pas complétés.
Et on demande aux agents qui sont là de faire l'ensemble du travail, comme si deux agents pouvaient remplacer le travail de 6 sur l'ensemble des missions. Nous avons des métiers, nous avons des diplômes et des spécificités. Sauf qu'effectivement, à ne pas pouvoir les mettre en action, on a une perte de qualité de travail rendu auprès de la population. Des délais de rendez-vous qui sont à 2, voire à 3 semaines, quand on parle de situation précaire, c'est inadmissible.
Ce lundi, le syndicat Sud-CT a décidé de boycotter la commission administrative paritaire pour montrer son désaccord, alors qu'un autre changement touche cette fois les agents d'accueil des collèges logés dans des appartements de fonction. Des agents qui sont sous contrat de 1734 heures par an alors que le temps légal est de 1607 heures annuelles. Le surplus est ainsi compensé par des RTT, mais aujourd'hui une proposition est émise par le département et doit être validée lors de la plénière. En contrepartie de leur logement de fonction, ces agents seraient assignés à résidence pendant 12 jours de RTT afin de travailler sans récupération ni contrepartie financière, selon l'organisation syndicale. Anne-Sophie Miolan est trésorière adjointe à Sud-CT 05.
La RTT, tout le monde sait ce que c'est. On ne peut pas cautionner le fait que ces gens-là, ils travaillent, alors peut-être pas toute la journée, juste pour une certaine tâche pendant le RTT, mais nous, on voit ça comme du travail bénévolat et ça nous questionne dans la fonction publique.
Et face à ce changement, pas de dialogue social, selon Agnès Fombertas.
Alors aujourd'hui, on n'a pas de réponse, si ce n'est c'est comme ça. On n'a pas d'autre argumentaire. Au CT, les trois organisations syndicales ont voté contre. Le président du département a fait fi de cette position, mais on n'a pas d'argumentaire du pourquoi.
Dans un courrier transmis à tous les conseillers départementaux, le syndicat demande aux élus de se positionner contre cette mesure.
Quant au département, il se défend par la voix de Jérôme Scoli, le directeur général des services. Ce dernier explique que le dialogue social est institutionnalisé au sein de la collectivité avec l'organisation de comités techniques avant chaque assemblée ou encore des réunions de dialogue social. Face aux postes vacants, le département confirme qu'il n'y a pas de remplacement lorsque les absences sont de courte durée. Quand elles sont plus longues, elles sont remplacées autant que possible, mais des aléas ne permettent pas un recrutement immédiat. Concernant les agents des collèges, le département explique qu'il s'agit d'une mesure en compensation de la gratuité du logement mis à disposition. Des restrictions de circulation sont mises en place sur la RN 85. C'est le pont sur la Séveresse entre Saint-Firmin et Chauffaillet qui est concerné. Pour assurer la sécurité et pérenniser l'ouvrage, le temps de la construction d'un nouveau pont, un alternat est mis en place et la largeur des voies est réduite. Il s'agit d'empêcher le croisement de deux poids lourds. Une mission d'expertise a diagnostiqué sa fragilisation malgré plusieurs opérations de renforcement et préconise sa reconstruction, souligne la préfecture. Un pont provisoire sera mis en place en 2021. Le nouvel ouvrage définitif devrait être, lui, ouvert à la circulation en 2023. L'ensemble des travaux représente un investissement de 5,3 millions d'euros pour l'État. Et puis un mot de sport pour terminer avec le rugby club dinois qui vient de signer Edgy Campbell, un jeune troisième ligne de 21 ans. Il a débuté le rugby dans l'île du Nord à Kao Rugby Sport Club avant de rejoindre le club d'Auckland, puis l'Australie où il jouait la saison dernière au Springfield Lakes Hawks. Un nouvel atout donc pour le club basalpin qui, vous le savez, a échoué après un beau parcours en 8e de finale du championnat de France Promotion Honneur.
L'actu des Alpes du Sud continue sur les applications pour smartphones.